à Paris. C'était le journal de Sylvie Berruet. Et vous êtes à présent avec Anne Souhaitemont pour le débat du jour.
Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, bienvenue dans le débat de ce soir. Passivité, soumission au pouvoir de Bachar al-Assad, l'action des Nations Unies sur le terrain syrien est unanimement critiquée par les associations d'aide aux civils. L'enquête de Luc Mathieu, parue dans Libération le 16 février, est sévère pour les Nations Unies. Mais après 5 ans de conflit, le constat est là. Des négociations sous l'égide de l'ONU sont au point mort, les Syriens sont contraints à l'exil, des villes sont assiégées, une aide humanitaire parvient difficilement à ceux qui en ont besoin. Alors Cyril, l'échec de trop pour les Nations Unies, c'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 3 invités. Mégo Terzian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de Médecins Sans Frontières, médecin pédiatre. Luc Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Libération, lauréat du prix Albert Londres 2015, et vous êtes l'auteur de l'article que je viens de citer, sur lequel nous allons revenir dans le cours de l'émission. Troisième invité, Dominique Trinquant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies, et vous êtes actuellement le directeur des relations extérieures du groupe Marc. Alors, avant de débuter vraiment cette émission, je voudrais faire avec vous un rapide tour de table pour avoir votre réaction sur cette proposition de cessez-le-feu qui a été annoncée il y a un peu plus d'une heure maintenant. Un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la Russie, pas par les Nations Unies. Un cessez-le-feu que les belligérants vont devoir accepter, qui ne concernera pas le groupe État islamique et le front Al-Nosra. Et un cessez-le-feu qui pourrait commencer samedi s'il est donc accepté. Mégo Terzian, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous allez pouvoir travailler en sécurité, ce qui n'est pas le cas pour le moment?
J'ai parlé avec mes collègues médecins syriens. Ils sont très pessimistes et ils pensent que la trêve humanitaire ou le cessez-le-feu ne sera pas appliqué. Malheureusement, je partage leur avis.
Dominique Trinquant, est-ce que vous y croyez à ce cessez-le-feu?
Bon, alors c'est toujours une bonne nouvelle quand on annonce un cessez-le-feu. Maintenant, annoncé par les deux coprésidents de la conférence que sont la Russie et les États-Unis, autant je sais qu'on peut constater que la Russie a probablement un contrôle sur le gouvernement de Bachar al-Assad, autant on se demande que contrôlent les États-Unis. L'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, les mouvements divers et variés de l'opposition qui n'arrivent pas à trouver un président pour participer aux négociations. Je suis assez sceptique sur la capacité des États-Unis à avoir vraiment un contrôle sur ces mouvements-là.
Oui, pourquoi Staffan de Mistura, l'émissaire des Nations Unies, n'a pas réussi à les mettre d'accord, et pourquoi cette fois-ci Kerry ou Obama réussiraient à le faire?
Oui, c'est-à-dire que la Russie et les États-Unis se sont mis d'accord sur des modalités de cessez-le-feu dont ils conviennent tous les deux. Maintenant, le problème, c'est de le faire appliquer.
Alors, Luc Mathieu, votre réaction, enfin, sur cette proposition de cessez-le-feu?
Bah, écoutez, il y a eu beaucoup de propositions de cessez-le-feu. Il y a eu beaucoup d'annonces de trêves depuis 3 ans. Ça n'a jamais fonctionné, hormis pour des trêves très locales, notamment vers Damas. Il y a eu des échanges de prisonniers. Sinon, il y a toujours des problèmes de base, hein, qui sont les rebelles syriens sur le terrain qui ne reconnaissent pas l'autorité de leurs représentants à l'étranger. Depuis le début, hein, ils le disent. Il y a effectivement des groupes qui sont de fait exclus de ça, qui sont l'État islamique et le Jabhat al-Nusra, enfin Al-Qaïda en Syrie. Il y a la question des Kurdes, comment ils peuvent réagir alors qu'ils avancent en ce moment.
Donc, trop d'inconnus.
C'est extrêmement complexe.
Alors, Luc Mathieu, je voudrais qu'on en vienne au cœur du sujet qui nous réunit ce soir. Vous avez donc signé cet article le 16 février qui s'intitule « En Syrie, tous unis contre l'ONU ». Tous, ce sont, écrivez-vous, des humanitaires, des activistes, des opposants, des diplomates syriens et occidentaux. Et ils reprochent aux Nations Unies leur politique humanitaire en Syrie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on reproche aux Nations Unies aujourd'hui en Syrie?
Ils reprochent en fait aux Nations Unies, à Damas, de se soumettre au régime et de ne pas se rebeller, d'accepter en fait ce que le régime de Bachar al-Assad leur dit de faire ou les autorise à faire de temps en temps, sans même le dénoncer. Et ça a explosé cette crise, enfin moi je l'ai senti comme ça en tout cas, avec Madaya, qui est une ville syrienne qui est assiégée par le régime depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, les humanitaires syriens alerté l'OCHA, donc le Bureau des Affaires humanitaires à Damas, en disant il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, il faut les aider. Et la réponse qu'on leur donnait à chaque fois, c'était oui, on a demandé l'autorisation d'envoyer des convois ou de l'aide humanitaire, mais Damas ne veut pas. Et ça s'arrêtait là. Et il a fallu que...
Alors que ce que ces ONG auraient voulu entendre, c'est oui, on a demandé, ça ne marche pas, donc on va communiquer sur ce refus.
On va communiquer, on va pas dire simplement acter le refus. Et donc, ils font comme ils font souvent, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent. Et donc, ils ont envoyé de l'argent via le Liban, via le Hezbollah, aux habitants de Madaya. Mais ils se faisaient taxer par le Hezbollah, d'ailleurs, de à peu près la moitié. Donc, ils ont prévenu les Nations Unies en disant, mais attention, c'est de l'argent que vous nous donnez, qui sert en partie à financer le Hezbollah, donc comment on fait ? Et il a fallu que les activistes sur place à Madaya commencent à publier des vidéos, des photos, des témoignages.
Sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup tourné.
Sur les réseaux sociaux
tourné,
et après
oui,
sur, avec les journalistes. Semaines. Et là, le scandale était tel qu'il y a eu un convoi. Mais je veux dire, c'était pas non plus le règlement de la situation Madaya bien loin.
Alors, Mégo Terzian, donc je rappelle, hein, vous êtes le président de Médecins Sans Frontières, MSF, votre ONG qui a été bombardée à plusieurs reprises en Syrie, des hôpitaux, des écoles aussi. Alors, de quel œil regardez-vous, MSF, le travail humanitaire des Nations Unies en Syrie ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que décrit Luc Mathieu ? Est-ce que vous vous associez à ces critiques ?
Oui, je confirme, j'ai lu l'article de à la Libération, donc je confirme tout ce qui est mentionné par le journaliste
Luc Mathieu.
Mais d'abord, avant de critiquer les Nations Unies, nous aussi, Médecins Sans Frontières, honnêtement, n'est pas à la hauteur des besoins. Donc notre réponse n'est pas à la hauteur des besoins. Faute d'insécurité dans les zones contrôlées par le groupe État islamique et les autres rebelles moins radicaux, ou bien à cause de l'échec de dialogue qu'on a mené depuis le début de ce conflit avec le régime de Bachar el-Assad. Donc nous aussi, on peut pas prétendre qu'on est des champions aujourd'hui, depuis en tout cas 2 ans, en Syrie. Néanmoins, oui, les Nations Unies, oui, je confirme, ils ont une politique d'opportunisme. Ils font des coups suite à des informations données par les médias.
Faire
et c'est
des
tout.
Coups, l'expression est.
Oui, pour moi, Madaya, il y a 15 Madaya au moins, depuis 2 ans au moins, en Syrie, et personne n'en parlait. Donc Madaya est devenu un symbole d'une
Donc,
ville
toutes
assiégée.
Toutes ces villes assiégées dont on parle en disant que des convois arrivent, on en a encore parlé ce week-end, ce que vous voulez dire, c'est que c'est presque l'arbre qui cache la forêt de situations humanitaires catastrophiques dont l'ONU ne s'occupe pas aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas.
En tout cas, même l'ancienne coordinatrice humanitaire Valérie Amos a annoncé avant son départ qu'il y a un échec du système de l'aide des Nations Unies en Syrie. Donc elle l'a avoué elle-même. Ils ont voté il y a 2 ans une résolution 2165, passage transfrontalier de l'aide humanitaire. Même ça, ce n'est pas appliqué vraiment. Donc plusieurs zones dans le nord n'ont pas accès à l'aide humanitaire.
Dominique Trinquant, donc je rappelle que vous êtes l'ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces critiques que vous entendez ? Est-ce que cette proximité qui est dénoncée avec le régime syrien, c'est un dysfonctionnement des Nations Unies ou bien c'est consubstantiel à sa mission, à sa nature ?
Oui, parce que je voudrais rappeler que dans cette crise, les Nations Unies ont 3 missions, en fait. On a parlé d'OCHA, qui est la coordination de l'aide humanitaire. On n'a pas parlé de l'UNHCR, qui, aux frontières, s'occupe de tous les réfugiés, 4,5 millions de réfugiés. Et puis, le rôle politique, vous l'avez cité en introduction, de Stéphane de Mistura, avec UNDP, hein, le département des opérations politiques, et dont la mission est de dialoguer avec les belligérants, de dialoguer avec le régiment de Bachar al-Assad, de dialoguer avec l'opposition. Or, quand on est dans cette position, on est un petit peu écartelé, c'est-à-dire que on comprend bien que la position d'OCHA, qui est discutée avec le gouvernement de Bachar al-Assad, ne veut pas trop le radicaliser, parce qu'il a besoin que Stéphane de Mistura, de son côté, lui, puisse discuter et qu'il n'y ait pas un blocage. Donc on est dans une situation évidemment très complexe, qui se retrouve, vous avez raison, régulièrement, dans tous les conflits.
Et donc avec pour vous, c'est pas nouveauté. Il n'y a pas une spécificité aujourd'hui de l'échec syrien.
Alors, la particularité en Syrie en particulier, c'est que c'est un conflit qui dure depuis longtemps, donc qui est de plus en plus complexe. Les mouvements avec lesquels on doit discuter sur le terrain sont de plus en plus nombreux, font des alliances d'opportunités, donc peut-être effectivement tendance de faire des coups de temps en temps sur certains
zones. Là, en l'occurrence, les critiques, elles portent plutôt sur la nature de la relation qu'entretiennent les Nations Unies avec le régime, pas avec...
Oui, mais parce que je rappelle qu'en Syrie, aujourd'hui, on est dans la particularité suivante, c'est que la Syrie a toujours un siège aux Nations Unies. Le gouvernement de Bachar al-Assad est officiellement représenté aux Nations Unies. Donc c'est avec lui qu'on discute, c'est avec lui qu'on va demander des autorisations. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fautes qui sont commises. Moi, j'ai connu une période qui est ancienne maintenant, la Yougoslavie, où lorsqu'on discutait avec le gouvernement serbe, parfois, c'est vrai qu'il y avait un peu de laisser-aller, enfin disons de facilité, parce que c'était eux qui détenaient les armes et qui vous disaient « vous passez, vous ne passez pas ».
Mégo Terzian, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure en disant, en concédant que vous aussi vous n'étiez pas forcément à la hauteur de cette crise, de cette guerre syrienne, puisqu'il faut faire attention aux mots justement. Est-ce que aujourd'hui en Syrie on peut travailler de manière indépendante quand on est un humanitaire ou les Nations Unies par rapport à Damas?
En zone gouvernementale, la majorité des organisations expérimentées humanitaires n'ont pas accès. Dans les zones rebelles, nous en 2012, on a décidé de traverser la frontière turque et jordanienne d'une façon illégale pour organiser les opérations de secours. Malheureusement, début janvier 2014, on a eu un grave problème de sécurité où 5 collègues à moi avaient été kidnappés par le groupe État islamique. Suite à cet incident, nous, on a retiré donc le personnel étranger et on a diminué drastiquement nos opérations de secours en Syrie. Aujourd'hui, on gère que 3 hôpitaux directement dans le gouvernorat de Idlib ou Alep, et on appuie, c'est vrai, une centaine de structures de santé gérées par les médecins syriens, mais on envoie un peu à l'aveugle les médicaments et on ne contrôle pas vraiment la situation. Donc je ne peux pas prétendre que notre réponse est parfaite aujourd'hui en Syrie.
Mais vous dites, mieux vaut être présent que de ne pas être là du tout.
Oui, au moins on arrive à soutenir des médecins syriens, au moins on arrive à gérer 3 hôpitaux, mais les agences humanitaires des Nations Unies, par contre, cèdent au gouvernement syrien. Ils collaborent, pour moi. Ils sont opportunistes. Et je suis très étonné que l'ONU, qui était capable de convaincre, via la Russie, Bachar al-Assad de détruire l'arsenal chimique, ils ne sont pas capables de convaincre pour organiser les opérations de secours partout en Syrie. Je suis très étonné.
Alors, juste donner la parole à Luc Mathieu. On vient d'entendre des mots très forts, hein, les Nations Unies opportunistes qui collaborent avec le régime. Est-ce que pour autant, et vous l'abordez aussi dans votre article, on peut aujourd'hui, quand on est missionné par les Nations Unies à Damas, qu'on a besoin d'avoir un visa qui est délivré, travailler de manière indépendante?
J'ai parlé avec des anciens employés de l'ONU à Damas et ils disent tous que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment apparemment de discussion avec les gens du gouvernement syrien. C'est-à-dire qu'ils vont demander quelque chose. En général, c'est refusé. Et s'ils insistent, ils risquent de braquer les représentants du régime. Et là, soit d'être expulsés, soit de plus avoir des visas la prochaine fois. Et ils sont surveillés également. Enfin, il y a des employés syriens à Damas de l'ONU qui ont peur. Je veux dire, qui, quand ils sortent, qui vont par exemple à des réunions en Turquie ou en Jordanie, qui rencontrent leurs homologues des bureaux de l'ONU, soit en Turquie ou au Liban ou dans la région, ils parlent pas vraiment. Enfin, ils craignent, ils savent pas qu'il y a un espion. Enfin, c'est une situation assez, je pense, dans la difficulté de la relation, dans la violence de la relation, qui est peut-être pas inédite, mais qui est assez peu vue quand même.
Dominique Trinquant, je vois que vous voulez réagir.
Oui, je voulais réagir à la réaction qui montre bien la multiplicité des missions de l'ONU. L'affaire des armes chimiques, ça n'est pas l'ONU, ce sont les États. Je rappelle que c'est sous la menace des bombardements qui, à l'époque, devaient être, n'ont pas été faits, entre les Américains, les Britanniques et les Français, et avec un accord des Russes. C'est M. Lavrov qui a réussi au dernier moment à arracher un accord de M. Bachar al-Assad et à lancer cette opération de l'armement chimique. Donc, l'ONU, voyons bien ce que c'est. Quand on parle de l'OCHA, c'est l'administration de l'ONU. Donc, l'administration de l'ONU, elle est contrainte de négocier. elle ne peut pas agir par la force.
Alors, est-ce que
les nations peuvent agir par la force?
Pour améliorer l'action efficiente de l'efficacité de l'ONU, il faudrait modifier certaines des règles?
Non, si vous voulez, j'ai à l'esprit un souvenir qui va paraître peut-être ancien aux auditeurs, la Yougoslavie, que j'ai connue de très très près, où l'aide humanitaire devait aller en Yougoslavie. On avait monté des bataillons mécanisés qui apportaient l'aide humanitaire. Et pourtant, à la fin, ça se passait toujours par la négociation. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un bataillon faire feu de toutes ses armes de bord pour emmener de l'aide humanitaire à un endroit. Jamais. Ça a été des négociations de bout en bout. D'où ce que je citais sur le fait que parfois les Serbes, les Bosniaques, les Croates... Bon, ben là, on est dans la même situation, en fait. On est obligé de négocier. Or, le plus puissant dans certains secteurs aujourd'hui, c'est le gouvernement de Bachar al-Assad. Le bureau de l'ONU est situé à Damas, le bureau de OCHA est situé à Damas, et donc je comprends bien l'attitude d'un certain nombre des fonctionnaires de l'ONU qui se sentent pas tellement en sécurité là où ils sont, parce qu'ils sont obligés de négocier. Et quand vous allez vouloir aller à Madaya ou ailleurs, vous allez négocier là avec le gouvernement de Bachar al-Assad, ailleurs, avec un autre mouvement, et on voit bien la position de MSF, qui a dû rapatrier des actions, parce que l'État islamique s'est comporté de façon scandaleuse vis-à-vis des gens de MSF. Donc c'est tout le problème de la zone de conflit. Et plus la zone de conflit dure, ça fait 5 ans que ça dure, plus c'est compliqué et plus on a du mal à rentrer dans le système, surtout quand on en reste à l'extérieur, parce que je rappelle qu'il n'y a aucune troupe présente à part les troupes de l'opposition et de M. Bachar al-Assad qui est présente, qui est capable de négocier. Donc voilà la difficulté dans laquelle on se trouve.
Luc Mathieu, est-ce que... qu'est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir comme solution? Est-ce que ça veut dire que, vu les critiques que vous adressez, enfin que vous relayez plutôt aux Nations Unies, il faut que l'OCHA quitte Damas? Est-ce qu'ils peuvent faire mieux?
Ça, vraiment, je sais pas. Je sais qu'il y a eu plusieurs personnes, des diplomates surtout, qui pensent que l'ONU aura du mal à se relever de la crise syrienne, de la guerre
donc
syrienne.
Donc, ils voient un tournant.
Ouais, un tournant, parce que ça atteint des niveaux, au niveau humanitaire. Mais ça fait bien mieux placé pour en parler, mais c'est quand même au-delà du catastrophique. On est dans le drame permanent en Syrie.
Ça je fait rappelle 50... juste un chiffre, un Syrien sur deux a dû quitter son domicile depuis le début de la crise.
Ouais. Ouais. Et puis c'est peut-être même plus, parce que plein sont pas répertoriés dans les pays voisins. Donc les hôpitaux sont bombardés. Maintenant, à Alep, les hôpitaux, les écoles sont dans des caves. Parce que ça, depuis 2013, il y a quand même des barils d'explosifs du régime syrien. Il y a eu des scuds quand même du régime syrien aussi. Là, il y a des bombardements russes. Donc ça fait plus d'un an où ils ont levé les croix sur les hôpitaux, sur les toits, pour éviter d'être repérés. Donc au bout d'un moment, l'impuissance de l'ONU, il faudra bien que des leçons soient prises.
Tirer des leçons.
Voilà. Ouais, enfin.
Mégo Terzian, sur des leçons à tirer, est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous pensez que les Nations Unies, l'OCHA, doit rester aujourd'hui en Syrie ou qu'elle est inutile?
Je ne peux pas répondre à leur place, mais si c'était mon organisation, on préfère dénoncer et faire l'abstention au lieu de continuer à collaborer avec un système qui détourne l'aide humanitaire, en fait.
Ouais, votre position, elle est une position de principe extrêmement claire.
Oui, c'est clair. Moi, quand on négocie avec le régime de Damas, moi, au fond de mon cœur, j'espérais qu'on échoue, parce que je disais c'est un piège. Comment on va faire? On va être piégé comme les Nations Unies à Damas.
Oui, je crois qu'on est vraiment dans la position classique, j'allais dire, du jusqu'au boutisme. Est-ce que je fais de l'aide humanitaire jusqu'au bout, j'essaye de le faire malgré tout ce qui se passe, ou est-ce qu'à un moment je lance un grand cri en disant moi je ne sais plus faire, ça ne peut être que le secrétaire général de l'ONU, hein. Je ne suis pas en mesure, messieurs du Conseil de sécurité, prenez vos responsabilités, on ne peut plus travailler dans ces conditions-là.
Oui, c'est intéressant, nous avions d'ailleurs fait un débat il y a quelques semaines sur RFI sur la position sur l'aide humanitaire de l'Union Européenne en Érythrée, il y avait un petit peu le même genre de problématique qui se posait. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission, merci à notre trois invités, Mégo Terzian de Médecins sans frontières, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies, directeur actuellement des relations extérieures du groupe Marc, et puis Luc Mathieu qui est journaliste à Libération et qui a donc signé cet article en Syrie, tous unis contre l'ONU, qui est paru le 16 février. Merci également à Florence Ponce, à Hélène Avril pour la préparation, la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour un tout autre sujet, Notre-Dame-des-Landes, le référendum référendum est-il la solution? En attendant, c'est le journal en français facile avec Priscilla.